Je vais vérifier si vous m'entendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez tous bien, même si je me tourne la tête? Je fais ça parce que j'ai animé une retraite paroissiale ce printemps. Et j'ai changé de micro j'ai prêché trois soirs et j'ai changé de micro trois soirs. Parce que les gens ne comprenaient pas. Puis personne ne le dit, évidemment. On est trop gêné pour le dire. Alors j'espère que tout le monde m'entend là maintenant. Bon. OK. Jean-Claude disait que je me présenterais. Ça ne me prendrait pas toute la journée, ça me prendrait toute la semaine. Parce que lui, ça fait seulement 2 ou 3 ans que je le connais, et je me connais depuis bientôt 75 ans, alors. Ça va être trop long. On va plutôt parler de Jésus et de nous. Le thème que l'équipe responsable des journées de la prière de foi et partage Québec 2012-2013. Jean-Claude vient de vous le dire, c'est Jésus. Qui est-il? Qui est Jésus? C'est une question que Jésus lui-même a posée un jour à ses disciples. Il y a 3 semaines ou 1 mois, j'oublie. C'était l'évangile du dimanche. Et il était avec ses disciples sur la route. Il revenait du nord. Moi, je viens du nord, mais du nord de Montréal. Mais lui, il revenait du nord de la Palestine. Puis, il demande à ses disciples, à un moment donné, « Vous entendez les gens parler? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? » Alors, pour résumer ce que les disciples ont recueilli dans le sondage, c'est que Jésus, c'est un prophète. C'est vraiment un prophète. D'après nous, là, c'est un prophète. Et là, Jésus a continué et il dit à ses disciples de nouveau, « Mais pour vous autres, là, qui suis-je pour vous? Toi, Pierre, Jacques, Matthieu, Luc, Chip, non, Luc, t'es pas là, et tous les autres, qui suis-je pour vous? » Et les disciples ont répondu, mais leur réponse était encore assez floue parce que Pierre, au nom de la gang, a pris la parole et il a dit « Tu es le Christ ». Mais à ce moment-là, c'était quand même pas à la fin de la vie de Jésus et même à la fin, c'est pas clair du tout que Pierre savait qui était Jésus, vraiment. Nous autres, on va le savoir à la fin de l'année, mais c'est pas sûr que Pierre le savait après 3 ans. Il dit « Tu es le Christ ». Mais son idée, là, c'était le Christ, c'était le Messie que les Juifs attendaient depuis longtemps et qu'il viendrait les libérer enfin des Romains qui étaient en Palestine. Et la Palestine était vraiment sous le pouvoir des Romains. Alors, ils espéraient vraiment se débarrasser de ces gens qui étaient venus prendre en possession leur pays. Alors, c'est pas très clair pour Pierre, qui est Jésus à ce moment-là encore. C'est la question que de mois en mois cette année, sur laquelle vous allez réfléchir. C'est celle sur laquelle différentes personnes vont vous parler. Un jour, j'ai entendu, alors que je roulais de l'Université Laval vers le Vieux-Québec, en auto avec Pierre, « Marc, qui est Jésus pour toi? » C'est vraiment la question d'un million, pour ne pas dire la question qui tue. Qui est Jésus pour toi? Je suis resté estomaqué, bouche bée, Jésus, à travers Judy, m'avait demandé, venait de me demander, qui est Jésus pour toi? Et nous sommes restés en silence jusqu'à ce qu'on arrive dans le Vieux-Québec. Je suis heureux qu'il reste en silence parce que là, je venais de me faire poser une vraie question. À travers la voix de Judy, mais par Jésus. C'est mon interprétation, évidemment, à travers la foi. Hein? Et toi? Toi, là, je m'adresse à toi là, qui est ici. Là. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu t'es déjà fait poser cette question-là? Si une catéchète qui prépare des jeunes à leur première décommunion ou à la confirmation, si une personne est née ou si une personne qui se dit incroyante ou qui doute ou qui dit que l'Église, là, ça va faire, hein, ou peu importe, te demande... Tu vois, foi et partage. Tu es dans telle ou telle organisation d'Église. Tu, hein? Tu es très engagé socialement, tu aides vraiment les gens, puis tu dis que tu fais ça pour Jésus. C'est qui, Jésus? Qu'est-ce que tu lui répondrais? C'est la question qu'on se pose cette année, hein? Pas surprenant qu'on a prévu que ça, on pourrait prendre 8 journées de la prière. Mais l'important, c'est pas d'entendre des gens qui vont venir vous en parler. L'important, c'est que toi, tu laisses Jésus te poser la question à toi, du fond de ton cœur. Qu'il vienne interpeller ton cœur. J'avais beaucoup appris, moi, sur Dieu, avant que Josie pose la question. J'avais reçu beaucoup d'enseignements. Dans mon enfance, j'avais appris par cœur les réponses du catéchisme. Et une de mes grandes souffrances, heureusement, je pense que j'en ai été guéri il y a 3 ans, 2 ans. Au printemps, je me rappelle, je donnais la parole à Montréal et j'ai commencé à raconter comment j'étais incapable d'apprendre des choses par cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me rappelle jamais de vos noms. Je n'ai pas de mémoire. C'est souffrant, hein? Ne pas être capable de se rappeler du nom d'une personne qu'on connaît très bien. C'est encore plus difficile de retenir les réponses de catéchisme, les fables de La Fontaine. Apprendre des choses de quand j'étais au collège, par cœur, puis faire une petite pièce de théâtre entre étudiants, puis dire 2-3 phrases, puis bloquer là, et puis être capable de continuer. J'avais vraiment honte. J'étais vraiment complètement à terre. Heureusement, je me suis rappelé à ce moment-là, quand j'en ai parlé à Montréal, là, j'en ai pleuré un coup parce que là, je l'ai revécu. J'ai vraiment vécu là, ma souffrance-là, là, je n'avais jamais parlé de ça. Puis, aujourd'hui, je peux en parler parce que je pense que je suis guéri. Ce que je me suis rappelé aussi, c'est que je me rappelle absolument pas qu'une seule fois de tout ça, mes confrères de classe aient ri de moi ou mes... taquiner ou je ne sais pas trop quoi, dit n'importe quoi parce que je n'étais pas capable. Lorsque Judy m'a demandé « Qui est Jésus pour toi? » Je venais de vivre une retraite de Jean Vanier l'été d'avant. J'avais participé aux équipes de prière. On avait habituellement 2 équipes de prière par jour pendant la retraite, quand ce n'était pas 3. Puis, ça m'a permis, quand on est arrivé de la retraite, on a formé une équipe de prière ici à Québec, et j'ai continué à participer à l'équipe de prière, et ça m'a vraiment permis de poursuivre un cheminement spirituel, mais assez différent de celui que j'avais vécu jusque-là. J'ai découvert que la vie spirituelle, que la vie chrétienne, consiste bien davantage dans une relation avec Jésus et avec d'autres, frères et sœurs, avec les autres, une relation, je dirais, affective, une relation proche, où on peut se faire proche les uns des autres. Découvrir donc que la vie spirituelle consiste beaucoup plus en ça qu'en l'apprentissage de toutes sortes de connaissances. On a beau avoir tout savoir, avoir lu un paquet de livres, avoir participé à des retraites, j'en avais fait des retraites jusque-là, j'en avais-tu fait, hein, mon Dieu. Je pense pas que, en tout cas, en autant que je puisse me regarder là et être conscient de moi, je ne me rappelle pas que j'avais vraiment rencontré Jésus avant. Une spiritualité qui est basée sur l'Évangile. Qui se vit grâce à une communauté chrétienne. À une communauté comme celle de Foi et Partage, entre autres. Et d'autres communautés. Une communauté de foi pratiquée dans la charité. Une foi vécue dans l'engagement avec des frères et des sœurs. Ce même dimanche, il y a 3 semaines et 1 mois, Saint Jacques disait, si tu ne mets pas ta foi en pratique, si tu ne t'engages pas, ta foi est vaine, elle est vide. Tu n'as vraiment pas la foi, au fond. Il ne disait pas ça de même, mais c'est ce qu'il voulait dire. Tu n'as pas la foi. Une foi qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de main, qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreille, je vais revenir là-dessus tantôt, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de... Quelle sorte de foi que c'est? Je suis heureux de lire dernièrement un petit texte, une page, dans le Brillant Église, où il est dit que la paroisse a ses avantages et ses limites. Elle fait vivre, dit-il, l'expérience de l'assemblée dominicale, l'assemblée du dimanche, fait vivre l'expérience de l'assemblée, ce qui n'est pas la même chose que l'expérience de la communauté. Si vous avez remarqué, on ne parle jamais du mouvement Foi et Partage, mais de la communauté Foi et Partage. Dès le départ, on s'est refusé à devenir un mouvement. Mais on a toujours insisté pour dire communauté. Communauté, être ensemble, hein? Vivre la communauté. Alain Roy ajoute, « On ne peut espérer de la vie paroissiale une fraternité aussi forte, chaleureuse et intime que celle que l'on trouve dans un petit groupe, une communauté de base, un mouvement. » Moi, j'ajouterais un groupe d'engagement social. Il y a 3 ans, j'étais engagé depuis quelques années dans le comité liturgie, le comité pastoral de la paroisse où j'habite. J'ai essayé un peu qu'on s'engage et qu'on donne de la place pour l'engagement social, au moins connaître les gens qui sont engagés socialement et qui viennent de notre... sinon de notre communauté paroissiale, au moins de la municipalité. Puis, ça ne marchait pas trop. Puis, je me disais, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Il faut que je vois qu'est-ce que je pourrais, où est-ce que je pourrais m'engager. C'est beau de s'engager en liturgie, là, mais là... C'est un aspect de la vie chrétienne, mais c'est un des 4. Hein. Il y en a un autre qui est la prière, la célébration. Il y en a un autre qui est l'éducation de la foi, ce qu'on fait beaucoup à Foi et Partage en annonçant la parole. Et il y a l'engagement social. Et Foi et Partage à Québec en particulier a toujours été très, très engagé socialement. Enlever la dimension d'engagement social à Foi et Partage Québec et Foi et Partage va mourir l'année prochaine. Ça va disparaître. D'ailleurs, c'est en train de disparaître à peu près partout. Chez les anglophones, j'ai été très surpris de voir comment il y a encore beaucoup de communautés. Foi et partage. Et j'allais dire, oui, des groupes d'engagement social, des groupes qui travaillent socialement. Et je priais Jésus, mais je ne le priais pas très fort, parce que j'avais assez peur qu'il me réponde. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on lui parle à Jésus. Hein? Parce qu'à un moment donné, s'il faut qu'il écoute, ou surtout s'il faut qu'il réponde, alors un bon soir, j'allais me coucher, puis j'ai dit, « C'est quoi que tu veux? » J'ai dit fort. Le lendemain matin, j'ouvre le journal de Prévost, un journal que je regarde tous les mois, c'est un journal mensuel. À la deuxième page, à tous les mois, il y a « Maison d'entraide de Prévost ». Il avait répondu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la coordonnatrice, puis elle dit « Viens me voir ». Alors, depuis 3 ans, je vais à la maison d'entraide de Prévost pour aider particulièrement et surtout pour la banque alimentaire. Alors, il s'agit de recevoir les choses, de décharger le troc, répartir ça pour les 25-30 familles de la municipalité et un coup que c'est réparti, aller faire la livraison de 10-12 familles. Alors, on vient chez nous, Richard et moi, autour de 11h30 midi, là, après avoir terminé la livraison. Il m'a pris au mot, pas croyable, hein? Il m'a donné une réponse. C'était écrit dans le journal, puis je voyais ça tous les mois. Je le voyais, mais je voulais pas. J'avais peur. C'était engageant. C'était exigeant. C'était tous les mardis. C'était toutes les fois qu'ils ont besoin, s'ils m'appellent pour... J'ai trouvé là une communauté chrétienne extraordinaire, mais nous sommes seulement 2 qui allons à la messe habituellement, sur 40 bénévoles. Des frères et des sœurs, et surtout des sœurs, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, qui viennent les unes 2-3 fois par semaine, qui aident des gens qui sont plus pauvres, de la municipalité. On ne parle pas beaucoup de Jésus, mais on vit l'Évangile. De temps en temps, on en parle un peu. Se pose des questions par rapport à l'Église. C'est pas toujours très positif, mais se pose des questions. Alors, sans nommer foi et partage, je peux toujours dire qu'il y en a des choses qui se font quand même. Hein? Alors, j'essaie un petit peu de partager un petit peu l'expérience, mais sans pousser trop vite. Donner le temps. Cet été, je voulais faire un muret pour empêcher la terre de débouler devant une petite fenêtre qu'il y a au sous-sol de la maison chez nous. J'avais des roches de différentes tailles et de différentes grosseurs. Pour que le muret tienne, il fallait que je choisisse les roches une à une pour faire mon muret, pour très bien les placer pour pas qu'elles tombent. Hein. Et surtout, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est de bien regarder mes roches pour faire le fondement. Trouver les roches les plus importantes pour faire le fondement pour pas que le muret déboule après la première grosse pluie. Je voulais avoir un muret quand même suffisamment solide pour pas être obligé de le recommencer l'année prochaine. Le thème qu'on m'a donné pour aujourd'hui, c'est la pierre d'angle, la pierre angulaire. J'ai trouvé que ça pouvait être la pierre principale. Parce que la pierre d'angle, la pierre angulaire, je trouvais ça très difficile, puis j'avoue que je ne développerai pas ça beaucoup parce que je n'ai pas été capable. Je lui ai donné plutôt la pierre de fondement. La pierre de fondement, Jésus le fondement. Tout être humain cherche un sens à sa vie. À sa vie humaine. Nous cherchons aussi un fondement sur lequel appuyer la dimension spirituelle de notre être. Parce qu'elle est quand même importante, cette dimension-là, cette dimension spirituelle. Tant de gens qui ont rejeté les religions, qui ont rejeté l'Église, mais qui disent que le spirituel, c'est très important pour eux. C'est sûr que c'est très important. Ça fait partie de l'être humain, la dimension spirituelle de l'être humain. Les églises chrétiennes, elles proposent Jésus le Christ comme fondement. Il est la base de la foi chrétienne. Il est la tête de l'Église. J'entendais un évêque qui était interviewé à la TV. Et l'intervieweur a dit, parlait de Jésus comme chef. Il dit, c'est pas le chef. Il dit, il faut faire attention aux mots. Il dit, c'est pas le chef, il dit, c'est la tête. C'est très différent être la tête et être le chef. Il dit, Jésus, c'est pas un boss. Puis il dit, dans mon diocèse, j'espère que les curés sont pas des petits boss. Je trouvais ça pas pire pour un évêque. Un évêque de 75 ans. Il était au concile. Jésus, il est celui autour de qui on se rassemble. Il est le sauveur du monde. C'est bien ce que nous proclamons à la messe, à toutes les fois qu'on célèbre l'Eucharistie, comme mystère de notre foi. Nous lui disons, Jésus, toi qui as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Mais souvent arrivé de demander à des groupes, si je te demande de prendre un timbre-poste, tu sais, un petit timbre, là, c'est pas gros, pas un petit, là, mais en tout cas, ceux d'un poste, là, pour lui donner une chance, hein. Pourrais-tu m'écrire là-dessus, c'est quoi qui est l'essentiel de la foi chrétienne? Pourrais-tu m'écrire ça? Juste ça, là, quelques mots. Et habituellement, il me parlait de charité, ce qui était pas pire, ce qui était pas mal, aime ton prochain comme toi-même. Ce qui est pas mal, mais ça fait pas, c'est pas la foi, mais c'est la charité, ça. Jésus est mort et il est ressuscité. Il revient encore pour nous sauver, point final. Ça, c'est la foi. Ça, c'est notre foi. C'est le fondement de notre foi qui nous appelle à nous engager à la manière de Jésus, comme nous le rappelle l'Évangile. Mais affirmer que Jésus est le sauveur du monde, ça provoque une question. Il sauve le monde? De quoi? De quoi? Il sauve qui? De quoi? Parler de salut, c'est dire qu'on passe d'une situation de vie mauvaise à une situation de vie bonne, meilleure. On passe d'une situation de vie mauvaise, difficile, à une meilleure situation de vie. C'est ça parler de salut. C'est ça parler de liberté, de libération. D'autre part, je ne peux pas découvrir que j'ai vraiment besoin d'être guéri, de changer de situation de vie, d'être sauvé, d'être libéré. Je ne peux pas découvrir ça. Où je peux, ne peux découvrir cela que lorsque je reconnais la situation de pauvreté, de fragilité, de peur dans laquelle je me trouve, dans laquelle je suis. Pour voir mon besoin d'être guéri, d'être sauvé, d'être libéré, je dois reconnaître mes difficultés. Mes difficultés à aimer et à me laisser aimer, à m'engager et à m'ouvrir aux besoins des autres. Reconnaître les peurs que j'ai à m'engager et à m'ouvrir aux besoins des autres. Reconnaître mes difficultés à mettre la parole de Dieu en pratique et à suivre Jésus sur le chemin difficile de la vie. De quoi Jésus sauve-t-il? Pendant des générations, la réponse principale est celle-ci. Jésus me sauve, nous sauve du péché. C'est sûrement une réponse valable, car le péché existe, même s'il n'y a pas bonne presse. On n'a qu'à ouvrir les journaux pour voir qu'il existe. Il est dans la presse, mais il n'y a pas bonne presse. Aujourd'hui, il est vrai que bien des gens disent qu'il n'y a pas de péché. Vous avez entendu ça. S'il n'y a pas de péché, à quoi ça sert de proclamer, d'annoncer que Jésus est sauveur du monde, il est sauveur du péché? S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin d'être sauvé du péché. Pourtant, quand je lis l'Évangile, je vois Jésus qui libère les gens du mal. Je vois Jésus qui les sauve de leur situation de détresse, qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Attention, là, les pauvres, malheureusement, on en a trop fait que les pauvres matériels. Il y a les riches puis les pauvres, puis la job des riches est d'aider les pauvres. C'est pas ça, là. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est le pauvre dans l'Évangile, là. Ben, si vous la lisez un peu, on sait qu'est-ce que c'est. Je vais donner quelques exemples un peu plus loin. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus, il est ressuscité. Il a ressuscité ou réanimé des morts. Il pardonne. Il donne sa vie par amour. Il dit, « Ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne la prend. » Il donne sa vie par amour pour tous les humains. Personne ne la prend, je la donne. Voyons quelques exemples de ce que fait Jésus comme sauveur, comme guérisseur, comme fondement de notre foi chrétienne. J'avance encore plus en reposant la question, qui sauve-t-il? Comment sauve-t-il? De quoi nous sauve-t-il? Parce qu'il ne nous sauve pas aujourd'hui, on perd notre temps ici aujourd'hui. Il nous sauve toujours et encore. Déjà, hein, dans l'Ancien Testament, un texte qui m'a marqué beaucoup dans les toutes premières années, là, moi, quand j'étais étudiant, on avait un moment donné où on avait un temps où on nous invitait à lire la Bible pendant 15 minutes le matin. Je préférais faire le ménage, passer le balai dans ma chambre, c'est beaucoup plus simple. Je comprenais rien dans la Bible, je trouvais ça plate. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir une de ces faims, de ces soifs, de manger la Bible, de boire la Bible, la parole de Dieu, j'ai lu un jour ce texte que j'avais déjà probablement entendu à la messe, je ne sais pas trop. Isaïe qui dit, « Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. » Alors, les aveugles verront, les sourds entendront. Alors, les boiteux bondiront comme les cerfs, et les muets exprimeront, crieront leur joie. Et Jésus, lui, d'après saint Luc, commence sa mission la première fois qu'il prend la parole, semble-t-il, à la synagogue de Nazareth, parce que les laïcs pouvaient prendre la parole, pas juste les prêtres qui avaient le droit de prendre la parole dans la synagogue, qui est le correspondant de l'Église. Les laïcs pouvaient prendre la parole. Alors, il prend le livre d'Isaïe au chapitre 61. Il proclame le texte où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré d'une onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, au baptême, à la confirmation, et les prêtres à l'ordination presbytérale. Ils sont consacrés d'une onction. L'Esprit m'a consacré d'une onction. L'Esprit t'a consacré d'une onction par les mains d'un prêtre. Donc, toi aussi, t'es consacré d'une onction. Pour être prêtre, prophète et roi, vous a dit mon Seigneur Couture, printemps ou l'année passée, je ne sais quand, là. Il vous a rappelé ça. Et Jésus continue à lire le texte d'Isaïe. « Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Il m'a envoyé pour libérer les opprimés. » Jésus, ayant fermé le livre, ajouta, « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous, réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Il faut que j'écoute Jean-Claude parce que la cassette est arrêtée. Chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, qu'on la lit, qu'on la médite, c'est dans le texte, c'est un texte. Ça, c'est de l'écriture, c'est un livre, ça. C'est juste un livre, ça. C'est juste du noir sur du blanc. Mais quand je l'écoute, que je la reçois et que je l'accueille, elle devient, à ce moment-là, parole de Dieu. Hein? C'est à ce moment-là qu'elle devient parole de Dieu. Et en cet automne 2012, Jésus poursuit sa mission et il veut avoir besoin de nous. Il veut que cette parole que nous écoutons, que vous écouterez toute l'année, ou que vous pouvez lire, ou que vous écoutez quand vous allez à la messe, etc., qu'elle se réalise aujourd'hui. Alors voici quelques exemples de la réalité au temps de Jésus. Et j'essaierai de faire quelques applications. Malheureusement, je reste loin et je n'ai pas pu participer à l'équipe de préparation pour annoncer la parole aujourd'hui. Mais dans le temps, je le faisais. La plupart des retraites, j'ai prêché d'ailleurs, que ce soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou au Québec. Les paroles que j'annonçais avaient été préparées ici à Québec avec l'équipe de préparation. Hein? Tu savais ça, Louis? Tu m'as aidé beaucoup à préparer mes prédications de retraite au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Et tous les autres qui étaient là pour l'équipe. Là, ce sera à vous autres de les compléter, peut-être dans l'équipe cet après-midi ou à d'autres moments. Jésus sauve, libère, guérit. En guérissant un sourd, je ne lirai pas tous les textes, ce serait trop long, mais je le résume. On apporte un sourd à Jésus. Voyez-vous, c'est quelqu'un d'autre qui l'amène. Comme à Foi et Partage, on invite des gens à venir pour qu'ils écoutent la parole et que cette parole-là, l'ayant écoutée, les gens l'appliquent aujourd'hui dans la vie, dans leur vie, dans les semaines qui suivent. Les gens lui apportent. Jésus prend le sourd, je l'imagine, par la main, il l'amène en dehors, et là, il y a une rencontre tout seul, seul à seul avec Jésus. Jésus prend sa salive et il la met sur ses oreilles. Touche ses oreilles. On faisait ça au baptême avant, mais à cause de l'hygiène, on ne le fait plus, mais il touche ses oreilles. Et il dit, « Ephata, ouvre-toi. » Il ne dit pas aux oreilles, « Ouvre-toi. » Il dit à monsieur le sourd, « Ouvre-toi. » Et le s'ouvre. Le sourd s'ouvre et la parole de Dieu le change. Quand nous devenons attentifs à l'écoute de la parole, quand nous la comprenons et que nous la mettons en pratique, nous ne sommes plus sourds, car nous avons été guéris. Quand nous décidons de répondre à l'appel de frères et de sœurs qui crient vers nous, nous ne sommes plus sourds, car nous avons été guéris, libérés. Jésus sauve en guérissant un bègue, un muet. C'est dans Saint Marc, chapitre 7, versets 31 et 35. Hein? Jésus ayant mis de sa salive sur la langue du bègue, celui-ci se mit à parler correctement. Voyez Jésus prendre la salive, il touche aux lèvres, à la langue de celui qui n'est pas capable de parler correctement. Et il se met à parler correctement. Il peut donc parler de Jésus. Si vous lisez les textes que je ne pourrais pas lire aujourd'hui, mais quand vous relisez, prenez-les un derrière l'autre, là, tout ce que Jésus fait, puis appliquez-les là, comme je vais faire jusqu'à la fin de l'exposé ce matin-là. Quand toi, moi, toi, là, nomme ton nom là, Jésus. Là. Quand nous décidons d'annoncer la bonne nouvelle en la vivant concrètement, nous ne sommes plus bègues. Nous ne sommes plus incapables de parler correctement de Jésus, car nous vivons une guérison. Nous avons vécu une guérison. J'écoute la parole, elle m'interpelle, je la comprends, j'écoute l'appel de mon frère à travers lequel Jésus me parle, je réponds, je suis donc guéri de mes peurs d'aider mes frères, etc. Quand des parents et des grands-parents osent parler de Jésus ou prier avec leur enfant, ils ne sont plus muets. Ils n'ont plus peur de parler de leur foi, de celui en qui ils croient. Si j'ose ouvrir la bouche pour partager ma prière dans l'équipe de la prière, par exemple à Foi et Partage, si j'ose ouvrir ma bouche et la partager, ma prière, ou dans une autre équipe en dehors de Foi et Partage, une équipe de partage de la parole, ou une équipe de partage de vie, peu importe, hein? Si j'ose ouvrir ma bouche alors que j'ai peur, ça vaut rien ce que j'ai à dire. Si je le fais, c'est un signe que je guéris. Jésus sauve en guérissant un aveugle. Je suis rendu aux yeux, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment. Jésus, c'est Dieu incarné. Il y a un corps. J'ai parlé du sens de la vue. J'ai parlé du sens de l'ouïe. Et je vais parler plutôt du sens de la vue. J'ai parlé de la parole. Il paraît que les professeurs ils devraient être capables de penser qu'il y a des gens qui sont des auditifs, d'autres qui sont des visuels et d'autres qui sont des tactiles. Alors Jésus, il savait tout ça, lui. Alors il fait ça. Oui. On lui amène un aveugle. Il prend sa salive. Il met sa salive sur les yeux de l'aveugle qu'on lui a amené. Il lui impose les mains. Alors l'aveugle voit clair et fut rétabli, dit l'évangéliste. Quand nous ouvrons nos yeux aux merveilles de l'amour de Dieu et que nous rendons grâce à voir, par exemple, la nature, puis c'est à vous autres à faire le reste, hein? Moi, je vous donne deux exemples pour y en avoir pour la journée, hein? Et que nous voyons les besoins de nos frères et sœurs et les aidons. Nous ne sommes plus aveugles, ni sourds, ni muets, hein? C'est aujourd'hui que l'Évangile se réalise. C'est aujourd'hui que la parole se réalise. Par de tels signes sensibles, qu'on perçoit par nos sens, hein, Jésus nous montre que Dieu, notre Père, veut des enfants libres, sauvés, libres d'entendre, de parler, de voir. C'est ainsi que nous poursuivons la mission de salut de Jésus aujourd'hui chez nous, en faisant cela. Jésus sauve encore en délivrant Zachée du rejet et du mépris. Zachée, ce collecteur d'impôts, est un juif fils d'Abraham. Il est méprisé à cause de sa profession. On peut être méprisé pour toutes sortes de raisons. Il cherche à voir Jésus. Il cherche à voir. Il est encore aveugle. Recevant Jésus chez lui, Il est guéri de sa blessure due au rejet, due au mépris. Car il reconnaît que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est l'évangéliste qui nous dit ça. Ou c'est Jésus qui dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Maintenant, ayant vécu cette rencontre avec Jésus, l'ayant vu et l'ayant entendu, ayant fait au moins une journée foi et partage, sinon une fin de semaine, sinon toute une retraite, je ne sais pas moi, il paraît qu'après un repas avec, ça n'a peut-être pas duré plus qu'une heure, hein? En tout cas, maintenant, Zachée voit les besoins de ses frères et de ses sœurs, et il décide de faire le don de la moitié de ses biens. Quand, quoique blessé, pauvre, fragile, je m'accepte tel que je suis et que je suis accepté par les autres, je suis délivré d'un certain mal en moi. Et je peux mieux aimer et me laisser aimer et partager avec les autres selon leurs besoins, mais aussi, et ça me paraît important, selon mes propres dons. Je n'ai pas le texte par cœur, mais saint Paul rappelle que dans l'Église, l'Esprit-Saint donne les dons, mais le don qu'il donne, ça correspond au don de chacun. Je n'ai pas essayé de faire des choses qui ne correspondent pas à mon don ou à mes dons. Je n'ai pas à me prendre pour un autre. Mais chacun ayant son don, pas besoin de s'inquiéter, l'Esprit-Saint va faire ce qu'il a à faire, à travers nous, bien sûr. Parce qu'il n'a pas de bras, ni de cœur, ni d'eux. Hein? C'est à travers nous maintenant qu'il veut faire, qu'il veut agir. Je pense à ce médecin qui, alors qu'il prêchait une retraite, c'était à Bathurst, lui, il était médecin en Gaspésie, là, dans la vallée de Matapédia, dans ce bout-là, il était venu faire une retraite foi et partage, je pense que c'était celle de Québec ici. Puis, retourné chez eux, il a décidé de vendre son bateau de plaisance pour avoir plus de temps pour ses patients. Il a raconté ça, je ne l'aurais pas su, il ne s'en vantait pas, mais lors d'une retraite, il donnait la parole avec moi, il faisait une conférence, moi je faisais l'autre, et puis il a raconté ça, c'est vraiment incroyable. Il a vendu son bateau pour avoir plus de temps pour ses patients. En pardonnant à la femme adultère, Jésus sauve. Femme, dit-il, où sont-ils tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Non, dit-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Les autres étaient tous partis parce qu'il leur avait dit que celui qui n'a jamais fait de péché lui lance la première pierre. Je n'ai compris cette parole-là autrement qu'en se disant, « Ben là, c'est sûr, les plus vieux, c'est les plus vieux. » Ils ont commencé par les plus vieux, hein, jusqu'aux plus jeunes. Ben, c'est sûr. Mais comment voulez-vous que des gens qui sont des pharisiens et qui observent la loi au pied de la lettre puissent tuer cette femme-là, sachant qu'ils allaient faire, comme on nous dit, hein, un péché mortel, tuer quelqu'un? Alors, ils ont sacré le camp. Ils n'étaient pas pour faire un péché de rette là, devant Jésus. Alors, ils sont partis. Pour ceux qui n'ont pas lancé de pierre. J'avais jamais pensé à ça, parce que je me disais, bien là, c'est sûr, il leur a dit, si vous n'avez pas fait de péché, allez-vous-en. Mais là, il aurait fait un péché de rette là. Il accusait la femme d'avoir péché, puis ils auraient eux-mêmes fait un péché, ils l'auraient tué en la lapidant. Alors Jésus dit, non, je ne te condamne pas moi non plus. Le seul qui aurait pu être condamné qui n'avait pas de péché, c'est lui, Jésus. Eux autres, il y en avait des péchés, mais Jésus, le sans péché, il reste seul avec elle. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dû penser? Je ne sais pas, moi, mais je l'imagine, hein, qu'est-ce qu'elle a dû penser? Il est tout seul, lui-là. Alors, il dit, non, moi non plus, je te condamne pas. Jésus n'enferme pas les gens dans leur péché, dans leur faute. Il ne les condamne pas, il ne les châtie pas. Il les invite plutôt à orienter autrement leur vie. Va et ne pêche plus. Oriente ta vie différemment. Le pardon met les gens sur le chemin de la liberté. Le pardon met les gens sur le chemin de la liberté et du salut. Le pardon élève et guérit plus que le châtiment. Le pardon élève et guérit plus que le châtiment. Est-ce que c'est pas ça qu'on fait comme mentalité au Québec? Quand on préfère la prévention et l'accompagnement des délinquants, on privilégie la prévention et l'accompagnement des délinquants plutôt qu'en augmentant les châtiments. Plus on va les punir sévèrement, plus ils vont payer pour, mieux ça va être. Au Québec, on dit « Oh, oh! » Non, non. Non, on va plutôt les accompagner, les aider, essayer de trouver les meilleurs moyens psychologiques, et etc., pour qu'ils ne retombent pas dans leurs fautes, dans leurs crimes. Moi, je pense que les gens qui font ça, ils ne savent peut-être pas, mais en me préparant, moi, pour cet exposé d'aujourd'hui, je me suis dit, ouais, ça se peut-il que ce monde-là sont vraiment marqués par l'Évangile, puis ils ne savent peut-être pas, mais ils le sont pareil, pour proposer de faire exactement la prédication de Jésus au niveau carcéral au Québec, au niveau de la justice. Quand nous savons demander pardon à une personne qu'on a blessée, elle retrouve la joie et la paix intérieure. Et nous, si nous avons aimé assez, si nous aimons assez pour demander pardon, vous en avez sûrement tous fait l'expérience, nous connaissons aussi la joie et la paix intérieure. Et quand c'est très difficile d'aimer assez pour pardonner ou pour demander pardon, on le sait qu'on a le cœur lourd. Et enfin, Jésus sauve en donnant sa vie. On pourrait ici réfléchir, méditer longuement toute la passion de Jésus, mais je ne fais que rappeler que lors de son dernier repas, Jésus a comme, à travers un immense symbole, présenté toute sa passion, sa vie, sa mort, sa résurrection. Nous rappelons que Jésus est né, qu'il a vécu, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il a été pendu à la croix, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le troisième jour. Hein, c'est vraiment tout cela. Mais la veille de sa passion, Jésus, prenant son dernier repas avec ses disciples, offre sa vie. Il prit le pain, le bénit, le rompit, comme son corps sera brisé le lendemain. Il dit « Ceci est mon corps » et dans la langue de Saint-Luc, c'est « mon corps », ça veut dire « moi hein? » parce que dans l'Évangile, dans la Bible, il n'y a pas de corps et d'âme, mais il y a une personne, une identité, corps et âme, mais ça ne forme qu'un « je », qu'une personne, qu'une personnalité. Alors, il dit « c'est moi, ceci c'est moi, livré pour vous, c'est moi ». Livré pour vous. Puis, prenant la coupe, la bénit, rendit grâce au Père. Il dit, « Ceci, c'est mon sang, mais le sang, c'est la vie. » Alors, il faudrait traduire, hein? « Ceci, c'est ma vie, versée pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Alors, Jésus donne son corps et son sang, il donne tout son être, il donne toute sa vie. Ma vie, je la donne, personne ne me la prend. qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » J'annonçais la parole à Montréal une autre fois, à Foi et Partage à Montréal. Puis je me suis dit, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Pourquoi on ne dit pas a la vie de l'éternel, comme disent les Juifs, hein? Les Juifs, dans l'Ancien Testament, l'éternel, c'est Dieu. Alors, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie de l'éternel en lui, donc a la vie de Dieu en lui. Accepter Jésus comme sauveur, comme guérisseur, c'est avoir conscience d'appartenir à un monde de sauvés. Notre monde, malgré les apparences, est en marche vers son accomplissement, vers la plénitude. Nous marchons vers la réalisation totale du projet de Dieu. Et chaque fois que nous nous engageons de quelque façon que ce soit, chaque fois que nous vivons l'Évangile de quelque façon que ce soit, que nous mettons la parole en pratique, nous sommes en train de réaliser le plan de Dieu. Nous aidons Dieu, je dirais, à accomplir son projet d'amour pour non seulement les humains, mais pour toute, pas juste la planète, pour tout l'univers. Nous participons, nous collaborons à la réalisation totale du plan de Dieu. Le pessimisme n'est pas compatible avec la foi en Jésus. On a l'impression que ça va mal, les guerres, tout, l'Église est en train de mourir, tatati, tatata. Pessimisme n'est pas compatible avec la foi en Jésus. C'est à nous, les chrétiens, de nous battre de façon constante et de lutter contre le mal sous toutes ses formes, selon nos propres possibilités et capacités. Que notre foi soit une raison de nous engager individuellement et communautairement. Jésus, tu entends le cri de nos frères et de nos sœurs. Tu entends nos cris. Tu connais nos souffrances, nos limites, nos faiblesses, nos peurs. Entends aujourd'hui notre prière. Tu cries après nous, tu cries pour nous, tu cries en nous. Entends aussi notre cri de prière et notre cri de silence.